Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée puisque ce soir, je pense que j'ai un journaliste à la retraite ou un animateur à la retraite, mais d'après ce que je comprends, il fait énormément de choses encore. Mon invité, c'est l'ex-journaliste de Radio-Canada, Marc Durand. Salut Marc.
Salut Yannick.
Content de t'avoir en studio avec moi. Tu m'écoutais cet après-midi,
ben oui.
Puis t'as dit, hey, t'as un peu, il a dit que j'étais à la retraite. Je suis pas à la retraite. J'ai mille et un projets encore actuellement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es père Radio-Canada?
J'ai quitté en 2014, donc ça fait 10 ans, pratiquement 10 ans, effectivement. Mais je suis resté associé, j'ai fait plusieurs jeux,
ouais. Les
jeux Paname, les jeux du Commonwealth, les Jeux olympiques pour Radio-Canada. Pour d'autres stations aussi, j'ai eu un show RDS,
j'ai eu un show
à Canal D, encore des collaborations avec RDS l'an passé au 5 à 7. Bref, c'est ça. Fait que je tourne à différentes places, à mon compte, finalement. Alors, c'est la beauté des choses, finalement.
Ouais. Ouais. T'étais dans toute une sécurité à Radio-Canada. T'avais ton poste assuré, t'avais tes heures, t'avais ton salaire et tout ça. Puis à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça a été quoi, le déclic?
En fait, c'est très, très simple. C'est les conservateurs au pouvoir avec Stephen Harper qui font des coupures importantes à Radio-Canada en 2014.
Ouais.
Et entre autres, on coupe les sports, beaucoup. Alors, on coupe beaucoup de postes, mais moi, je suis sauvé par mon ancienneté.
Ben oui.
Sauf qu'on me dit, Marc, on peut plus te garder à Québec. Moi, j'étais un employé de Montréal qui travaillait de Québec. Là. J'étais en télétravail depuis 2008.
T'es un employé de Montréal qui était à Québec.
Ouais, parce que c'est une demande que j'avais une jeune fille, puis tout ça, puis bon, ma copine était ici, puis j'étais un gars de Québec qui est fier d'être de Québec. Donc, je travaillais comme ça, mais on a dit, là, on peut plus te garder à Québec, il n'y a plus de show, on arrête la plupart des productions, faut que tu reviennes à Montréal, tu vas faire du RDI le matin, on va te placer. Non, ça me tentait pas, là, ça me tentait pas de faire ça, la fin de semaine en plus.
Ouais.
Non, fait que j'ai pris le choix de quitter.
OK.
Avec
un choix très courageux, soit dit en passant.
Ben, j'avais le goût d'essayer la production. J'avais le goût d'être à mon compte aussi.
Ouais.
Alors, c'est un paquet de choses. Je pense que je serais resté si j'avais été encore dans les conditions que j'étais en 2013. Mais là, on avait perdu le football. J'étais associé au football universitaire avec la diffusion des matchs. C'est passé à TVA Sport.
D'ailleurs,
mon dernier élément comme employé de Radio-Canada, ça a été la finale de la Coupe Dunsmore, la Coupe Vanier plutôt, gagnée par Montréal. Au Stade McGill en 2014, après ça, ben, j'ai remis les clés.
Puis est-ce que ça faisait quelques années que tu y pensais? Est-ce que tu jasais avec d'autres personnes qui étaient freelance?
Non, pas vraiment. J'ai pris cette décision-là tout seul. C'est ça. J'avais le goût de passer à autre chose, puis je gardais quand même contact. Là. J'ai fait d'autres jeux par la suite. J'ai fait les Panam à Toronto en 2015 pendant un mois et demi. Je suis allé aux différents Jeux olympiques jusqu'à l'an dernier, jusqu'il y a 2 ans. Alors, c'est ça. J'ai toujours été associé quand même, en bon terme, avec Radio-Canada. J'ai fait le documentaire sur Guy Lafleur.
Ben oui.
Mais j'avais le goût d'essayer des choses et puis des productions, entre autres avec Juste pour rire, une série sur les cartes de hockey et sur les grands collectionneurs en sport. Ça a été une belle expérience aussi. Ça, c'était en 2018. Bref, j'ai continué à tourner autour de Radio-Canada sans être un employé de Radio-Canada, mais oui, je suis moins souvent aux nouvelles, j'ai plus mon show de télé,
ouais. Alors
c'est différent.
Puis d'après moi, t'as pas fait de mauvais choix, je te regarde, puis t'as de l'air franchement heureux aujourd'hui. Là.
Ouais, toi, c'est mon comédien, c'est pas vrai, je suis pas heureux.
Non, je suis triste!
Ouais, ça n'a pas de bon sens, je regrette tellement. Non, c'est pas vrai, je suis content de faire ce que je fais.
Ouais.
Puis, je suis content, puis ça me permet de... Regarde, là, tantôt, là, après-midi, là, j'étais en ski. Moi, je reste à Stoneham,
ouais. Alors
que tout le monde, puis j'agaçais mes amis, je suis désolé de vous envoyer une photo de moi en ski sur l'heure du midi, je demeure au pied des pentes. Alors, tu sais, si j'étais à Montréal, en onde avec toi, sur l'heure du midi, je pourrais pas profiter. Bref, je suis content d'avoir mon horaire, faire mes choses, je suis assez autonome, je fais de la production, je fais du montage, je fais de la caméra, je fais de l'animation, j'ai la voix qu'il faut pour faire des choses comme ça aussi. Alors bref, je touche à tout.
C'était plus de temps pour toi.
Exact.
OK.
Ouais.
T'en es arrivé comment pour rentrer à Radio-Canada? Comment t'es arrivé là, à Radio-Canada?
Ben, j'étais à TQS avant. J'étais là pendant 12 ans, de 2002 à 2014. Et puis, bon, l'émission que j'animais, Hebdo Sport, quittait les ondes à ce moment-là. Et puis, je cherchais un nouveau défi. Puis, on m'offre coup sur coup, en même temps, un emploi à RDS pour faire le même genre d'émission et un emploi à Radio-Canada.
Est-ce que t'es arrivé en même temps que Bruno ou avant Bruno?
Bruno, à TQS, il était là moment-là. J'essaie de me rappeler parce que j'ai travaillé avec lui à Radio-Canada.
Tu avais Fillion, le fils à Maurice, qui était là?
Oui, effectivement. Raymond a quitté avant moi. Turcot est encore là, évidemment. Gérard Deltel est encore là. Bref, José Turmel est encore là.
Mais c'était incroyable, cette crèche de talent-là, TQS, là, quand
jeune.
Ça a commencé à Québec. Vous étiez jeune, vous étiez dynamique. Moi, je me souviens des bulletins de nouvelles qui étaient complètement différents de ce qu'on pouvait voir, soit à Radio-Canada ou à Télé 4 dans le temps. C'était Télé 4 ou TVA. Mais on voyait les anchors qui se promenaient et qui jasaient vraiment avec le téléspectateur. Vous avez fait les choses différentes.
Ça, c'était la plus belle chose qui est arrivée. Pierre Tachereau, qui est le génie derrière tout ça, qui est ensuite allé à TQS Montréal puis à TVA. Mais Pierre avait dit, on n'a pas les moyens des autres, alors il faut être différent. Puis on est jeune, on n'a pas l'expérience des autres. On va laisser parler les téléspectateurs. C'est eux qui vont être les vedettes. Puis nous, on va leur faire beaucoup de place. Et comme on est jeune, on va être dynamique. C'est comme ça qu'on va intéresser les gens. Alors, je me rappelle, il y avait plein de concepts qui étaient vraiment affichés. Là. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On doit se promener. Si on parle d'un accident où il y a eu des pierres qui ont fracassé des pare-brises, alors il fallait avoir une pierre dans les mains, une de ces pierres-là.
Tout était pensé.
C'était, là, on faisait des bridges au lieu des fermetures de reportage, alors que et Marc Durand, TQS, les grands journaux, on le faisait pas, on le faisait dans le milieu pour faire un pont. Je me rappelle, moi, j'ai appris mon école comme ça. J'ai pas de cours en communication, mais j'étais là.
T'as pas fait ton cours d'ATM, rien.
Non, malheureusement.
Mais écoute donc, t'es arrivé là comment?
On recule. En 2002, ben, j'étais à la télévision communautaire. J'ai fait beaucoup de radio communautaire à CIHWFM au Village-Juron. J'étais presque abonné. Ça faisait 10 ans que j'étais là. Puis Gérard et Stéphane, Gérard Deltel, Stéphane Turcot, c'est des bons amis à moi.
Ouais.
Et j'avais fait deux auditions, pour un emploi, je les avais pas eues. La troisième fois, je suis arrivé avec une approche différente. Et puis, en fait, la vérité, c'est que c'est un 24 juin 92, je me rappelle bien, Alain Crête, qui était au sport à ce moment-là, est absent. Décidé de prendre une journée de golf, j'imagine, c'était à son genre. Et puis finalement, on m'appelle en catastrophe et dit « Bon, ben Marc, c'est ta chance, tu vas faire les sports à soir. » Hey, mon Dieu! Puis là, si on recule encore...
Le stress qui embarque.
Oui, puis moi, je suis un gars, je suis un bègue de nature. J'ai bégayé beaucoup. Au secondaire, j'étais impossible. Là. C'est la radio qui m'a sauvé, parce qu'avec des écouteurs, je bégaye pas. Alors, là, j'étais nerveux. Je fais de la télévision en direct pour la première fois de ma vie, la radio communautaire. Personne ne nous écoutait vraiment, puis les autres expériences n'étaient pas en direct. Alors, j'étais très nerveux. Je me rappelle, c'est François Thibouteau qui était avec moi. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Ben oui.
Bon, alors, puis bon, on a un nouveau au sport, Marc Durand. Je suis assis sur un bureau, comme on le connaît à TQS. Puis, au moment où je viens pour parler, puis là, je suis nerveux, ça n'a pas de bon sens. Claude Mercier, qui fait la météo, passe à côté de nous, puis c'est une salle ouverte, comme tu savais. Il échappe toutes ses cassettes par terre. Blablabla. Finalement, je pars à rire. Ça a détendu l'atmosphère tout de suite.
Ben oui.
Si un vétéran comme Claude Mercier peut faire une gaffe, en tout cas, dans ma tête, ça va vite. Ça s'est bien passé, puis je suis resté depuis ce temps.
Oui, mais tu sais, dès le départ, moi, je me souviens du début de TQS, puis tu sais, quand toi, t'es arrivé, on avait comme un vent de fraîcheur, tu sais, le grand géant, toujours souriant, qui parlait de sport, qui était passionné, puis TQS, ça a été une bonne école, j'imagine, pour tous ceux qui sont passés là, parce qu'après ça, vous vous êtes tous trouvé des emplois ailleurs.
Oui, oui, puis la plupart aujourd'hui sont en communication, ou soit à la retraite, évidemment, ou sont dans des ministères, par exemple, ou des porte-parole, ou encore journalistes, parce qu'il y en a encore un paquet qui font ça. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Là. Christian Rouleau nous a fait une fête à sa maison, à sa résidence.
Oui, lui, il faisait la météo.
Le grand visiteur, entre autres.
Exact.
Christian, qui était fantastique, très drôle. Puis, ben, c'est ça, on essayait d'être différent, puis on a eu des bonnes codes d'écoute. On était numéro un pendant plusieurs années. TVA nous chauffait, il y avait de belles compétitions. Je me rappelle, quand le bulletin, nous, on a commencé à 17h, eux à 18h. Alors, on restait à 18h pour voir quelles nouvelles ils avaient qu'on n'avait pas ou comment ils avaient joué les nouvelles qu'on avait les deux. Alors, c'était une rivalité qui était très, très importante. Pierre Jobin d'un côté, José Turmel de l'autre. C'était assez particulier.
Vous aviez une équipe qui était très, très, très dynamique, puis surtout des passionnés de leur métier. Puis toi, j'imagine que tu as fait ton métier comme tu l'étais dès le départ. Tu as toujours été un passionné du sport.
Ouais.
Tu tripes sur les Olympiques aussi. Est-ce que toi-même, tu étais athlète à 6 et 5? j'imagine qu'ils t'ont demandé de jouer au football ou encore au basketball.
Ça, c'est drôle parce qu'on m'a demandé de jouer au football au secondaire. Moi, c'est ça. Alors, je raconte l'histoire. Je suis à Sherbrooke dans ce temps-là, puis je suis en train de prendre de l'eau au gymnase. Puis le coach de football qui m'a croche, puis « Hey, tu devrais jouer au football, toi, t'es grand, on a une pratique après-midi, viens-tu? » Puis je dis « Ben non, moi, je joue au badminton. » Et c'était mon sport.
Oh boy.
Puis il me regarde, puis il dit « Gaspillage! » C'est comme ça que là, finalement, c'est le plus près que j'ai été de jouer... De jouer au football, mais j'étais gardien de but au hockey, jouais au baseball. J'ai aimé l'espoir dès le départ. Je me rappelle de commenter les matchs de hockey de mes amis à Tôme, là, avec un micro. Là. J'ai toujours voulu faire ça.
Puis Marc Durand, au secondaire, voulait faire quoi de sa vie? Parce que là, on comprend qu'à un moment donné, la radio communautaire t'a amené vers la télé, TQS. Ouais. Tu voulais faire quoi de ta vie au départ?
Je le savais pas.
Oh boy!
Et puis, comme je bégayais, je ne pensais pas faire de la radio ou de la télévision. C'est vraiment la radio étudiante. Quand j'avais lu ça quelque part, je parle où quelqu'un avait expliqué que quand tu mets des écouteurs sur les oreilles, tu ne bégayes plus. Fait que là, je l'ai essayé, puis ah, c'est vrai, on ne bégaye pas quand on a les écouteurs sur les oreilles. Fait que là, j'ai commencé à faire de la radio étudiante, puis je disais aux gens, hey, comment vous l'avez trouvé le gars après-midi? En bégayant, évidemment. Ah, oh, il est bon, mais c'était moi. Ben voyons, pas toi, tu bégayes pas. Hein? C'est ça. Fait que ça a été le début. Là, j'ai commencé à croire que c'était possible, mais sans trop non plus. J'avais pas confiance en moi, j'avais peur justement du direct.
Puis, ouais.
Ça a été long, hein? Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait toutes sortes de métiers, mais dès 92, ça a été la passion pour... toujours.
OK. Mais t'as foncé quand même, sachant que t'avais un problème de bégaiement.
Ouais.
Tu sais, je pense à Glenn Constantin.
Ah,
Glenn, à chaque fois que les caméras arrivaient, là, c'était une catastrophe.
Je le sais, c'est encore ça aujourd'hui.
Ouais. Moi, j'ai eu la chance de lui jaser à Glenn, puis il bégayait pas tant que ça.
Non.
Mais dès que les caméras arrivent, c'était le stress qui embarquait, puis c'était du bégaiement. Mais vous avez des belles carrières quand même. Passer au travers de tout ça. T'sais.
Glenn, pour lui, c'est un gros stress, puis il... C'est son regret dans sa vie. C'est comme un regret. Pas un regret, mais il aurait tellement aimé ça, pouvoir communiquer mieux. Il m'en a déjà parlé. Il dit, un jour, j'aimerais ça faire un vidéo sur le coaching. Ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, mais c'est un méchant handicap qu'il a. Puis je me rappelle, parce qu'à chaque fois qu'il parlait, puis il me parlait, je me sentais mal, parce que je sais c'est quoi bégayer. Et puis,
ah, tu ressentais ce que lui ressentait.
Je te jure, les
deux. Tu te mettais à sa place.
Ah, c'est ça. Le truc avec Glenn, en tout cas, c'est ce que je faisais avec lui. Je lui parlais très lentement. Alors, Glenn, première demi, le Rougéard mène par 14 points. Comment ça a été, selon toi? Là, il parlait plus lentement. Si t'arrives comme je parle actuellement, très vite, il va débouler tout le reste. Puis, fait que c'est plus difficile. En anglais, il bégaye moins, mais il le fait quand même un petit peu. Mais écoute, chapeau, c'est un entraîneur extraordinaire. Puis,
c'est probablement l'entraîneur avec le plus grand QI football que le Québec ait connu. Là.
Certainement. Puis c'est un gars qui sait convaincre aussi les jeunes. Il leur dit pas de bullshit. Il réussit à attirer les meilleurs joueurs au Québec. Les Carabins, c'est une belle opposition.
Ben
alors,
oui.
c'est une belle rivalité qu'ils ont. Mais on est chanceux à Québec d'avoir eu Glenn Constantin.
Puis avec des valeurs fondamentales bien ancrées, là, ce gars-là aurait pu faire une carrière dans NCAA sans aucun problème. Mm. Je connais pas son contrat qu'il y avait à Québec, là, mais je veux dire, aux États-Unis, il aurait été millionnaire.
Probablement. Je sais pas s'il aurait été entraîneur-chef. Il m'avait déjà dit, je serais peut-être entraîneur aux États-Unis. Entraîneur-chef, c'est une autre histoire, là. Mais il aurait pu être dans le CFL. Dans la LCF, certainement. Puis il a toujours choisi la sécurité, puis le fait qu'il aime recruter. C'est un gars qui aime ça, lui, se promener dans les matchs collégiaux, puis aller voir les jeunes, puis essayer de les convaincre d'aller à l'Université Laval.
Ça te motivait-tu de rencontrer des gens comme ça? Des gens exceptionnels. Tu sais, Glenn Constantin, tu as écrit plusieurs livres, tu sais, tu as fait des documentaires aussi.
Ouais.
De rencontrer ces gens-là qui ont marqué l'histoire ou qui vont marquer l'histoire, c'est une motivation chez toi?
Bien, absolument. Je suis curieux, comme toi. On aime savoir, on aime comprendre. J'aime beaucoup l'histoire du sport. Je suis président de la Société d'histoire du sport de la Capitale-Nationale, que j'ai fondée en 2016 avec deux autres amis. Puis ça fonctionne toujours. Mais bref, j'aime l'histoire. J'aime comprendre comment c'est arrivé. Pourquoi à Québec, on aime le hockey? Pourquoi on est toujours associé au hockey? Bien, ça fait longtemps qu'on le pratique. Bref, des choses comme ça. Alors oui, de rencontrer des gens qui ont fait des choses extraordinaires, que ce soit aux Jeux olympiques, que ce soit des administrateurs, des entraîneurs, ben oui, ça me passionne. Alors, ce que tu fais actuellement à Balado, je trouve ça génial parce que ça te permet de rencontrer des gens aussi, d'avoir plus que le 2 minutes 30 qu'on a des fois.
Puis en même temps, de comprendre comment ces gens-là ont fait avancer leur carrière.
Ouais.
Tu sais, il y a plein de gens qui nous écoutent actuellement, sont dans leur véhicule, puis Marc Durand, il travaille encore, puis on l'écoutait tout le temps à Radio-Canada. Marceau disait qu'il était à la retraite après-midi, il l'est pas pantoute. Ça m'intéresse comment il en a fait, tu sais, puis tu savais pas qu'est-ce que tu allais faire dans la vie.
Non.
Tu t'es dit, tiens, la radio semble m'intéresser, tu es un peu stressé parce que tu bégayais, puis finalement, avec les écouteurs de radio, ton bégaiement est parti, tu as eu des opportunités à TQS, pouf, ta carrière a été lancée pendant plusieurs années, puis aujourd'hui, tu t'en lance encore dans le vide. T'sais, c'est très respectable. C'est combien de gens vont rester dans leur zone de confort, Marc?
Ouais.
T'sais, des gens qui savent qu'ils ont peut-être énormément de potentiel, mais qui vont rester dans leur confort en disant « Non, mais je peux pas faire ça. Je boite d'une jambe. Je peux pas faire ça. J'ai pas une bonne vue. Je peux pas faire ça. » C'est se limiter dans la vie, c'est une des pires affaires. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'en côtoyant des gens comme toi ou des athlètes, ou un gars comme Chris Hadfield que j'ai reçu une couple de semaines, je viens qu'à comprendre que ces gens-là Tout le monde autour disait que c'était impossible, mais eux autres, ils ne savaient pas que c'était impossible. Puis ils ont réussi à le faire. Tu sais.
Ouais. Ce qui te passionne, c'est ce qui fait la différence. Je parlais à ma fille ce matin, c'est vrai. Puis je disais, est-ce que ça arrive des fois à l'école de regarder l'heure? Oui, des fois, les cours sont plates, je regarde l'heure. Ben, avant de faire la télévision ou les médias, je regardais souvent l'heure. Tu sais, comme ah, la journée avance pas. Ah, il est 3 heures. Il me semble que j'ai hâte. Je me suis jamais dit ça depuis 92.
Ouais.
Jamais je me dis, là, ah, ça avance pas. C'est au contraire. C'est ah, non, il est déjà 4 heures. J'aimerais ça que ce soit 13 heures. Tu sais. Je travaille la fin de semaine, je travaille dimanche. J'aime ce que je fais. Alors, s'il y a des gens qui écoutent et qui se demandent s'ils sont en bonne place, si tu es en train de regarder l'heure à longueur de journée, c'est parce que tu n'es pas en bonne place. Mm. Change de job.
Oui, puis il y en a qui, on a tous connu des professeurs d'école qui étaient là depuis 20 ans, puis qui étaient un peu tannés, un peu fatigués, qui enseignaient toujours le même programme année après année, puis qui regardaient comment qu'il leur restait de jour sur le calendrier.
Ouais.
Tu sais, je pense qu'on n'est plus rendu là maintenant. Notre génération, là, on faut pas se donner le droit de souffrir constamment en se disant, regarde, j'ai une bonne pension, on va rester là, il me reste encore 10 ans à faire. Hey, la vie est courte en sacrifice.
C'est vrai qu'elle est courte. J'approche la soixantaine, puis je me dis, mon Dieu, il me semble qu'il en reste pas mal. Puis, il y a 20 ans, j'ai 60 ans, c'est la retraite, là.
Ouais.
Mais non, c'est pas la retraite.
Puis toi, le stress, tu vis ça comment, le stress, Marc-Jean?
Ah, le stress, bonne question. Est ouverte en tabarouette, ta question. Qu'est-ce que le stress au quotidien ou le stress?
Le stress au quotidien. Quand, au début de ta carrière dans les médias, parce que je veux pas, si on n'est pas stressé moindrement, il y a un problème là, dans les médias.
Oui, t'as raison.
Tout le temps surstimulé. Il faut tout le temps essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été travaillé. Fait des téléphones des fois une minute avant de rentrer en onde. Tu me parlais de ça tantôt, je pense que c'était hors d'onde, mais tu sais, des fois on a des invités qui se débookent à la dernière seconde, il faut les remplacer, puis pendant le temps qu'on fait notre émission, on essaie de communiquer avec d'autres invités pour savoir s'ils sont disponibles. C'est pas tout le monde qui est capable de faire face à ce stress-là, tu sais. Puis le stress, là, ça peut être néfaste. Je parlais avec Thomas, mon co-animateur, sur l'heure du midi.
Ouais.
Tu sais, Barack Obama, ils ont pris une photo de lui le jour 1 de son mandat à la présidence des États-Unis, puis le dernier jour de sa présidence. Puis, tu sais, le gars a vieilli. Il a juste 8 ans. Il a vieilli de 20 ans.
Ouais, on voit ça aussi des coachs de hockey, des fois, qui ont des cheveux gris.
Martin Saint-Louis. C'est son cas.
Ouais, exactement, ça arrive. Mais je pense que c'est l'expérience qui fait en sorte.
Ouais.
Par exemple, j'ai remplacé cet été pour un mois à la radio. Puis, j'aurais pas fait ça il y a 25 ans. Là, c'était correct. Des fois, ça arrivait que l'invité n'était pas là. Bon, on parle d'autre chose. J'ouvrais le journal. On a confiance en nous. Puis, je pense que c'est la confiance. Donc, c'est à force d'essai-erreur. C'est un peu ça, dans le fond, le stress, c'est un peu comme comment on est quand la situation se produit. On l'a déjà vécu, donc on va passer à travers. Mais quand j'étais... puis encore aujourd'hui, le stress se vit d'une certaine façon. Tu veux toujours bien performer, tu veux toujours faire bien. Je faisais des reportages, je voulais toujours faire mieux que l'autre. Je voulais toujours divertir. Je disais souvent, faire une couverture d'une pratique du Canadien ou des Nordiques à l'époque, c'est assez facile. Tu fais des gars qui tournent en rond, 3-4 clips, d'asseoir, on va gagner, puis j'espère que je vais jouer, puis bon, ça s'arrête là. Les gens vont s'intéresser quand même, ils aiment le hockey. Mais moi, je faisais des reportages sur le tennis de table, et puis sur le badminton, puis sur le football, puis le soccer scolaire. Comment je vais faire pour les intéresser à ce sujet-là si c'est pas des vedettes puis c'est un sport qu'ils n'aiment pas vraiment? Alors, il fallait trouver des twists différentes. Alors, ça, c'était mon défi.
Okay.
Les sports, quand je les présentais à TQS, on n'avait pas d'image. Dans le temps, les Harfans de Beauport jouaient à l'extérieur, on n'avait pas d'image.
Joe Canale, la petite cabane.
La petite cabane. Mais quand c'était la petite cabane, oui, on avait des caméras, mais à l'extérieur, je dessinais mes sports. Les gens qui se rappellent, là, je faisais des bandes dessinées parce que je suis pas pire en dessin. Alors, je dessinais mes sports, le but d'Éric Dazé en première période, je mettais Dazé qui score un but après
c'est
ça.
Vrai.
Fait que je faisais des choses comme ça pour justement divertir les gens, informer et divertir. Je pense qu'il faut toujours garder cette...
Tu avais une certaine créativité. Mm-hmm. Est-ce que tu doutais de toi parfois?
Ben
c'est
oui.
Important dans ce métier-là de douter de soi puis de toujours se remettre en question?
Tout le temps. Puis moi, j'étais orgueilleux. Alors, si quelqu'un me disait que c'était pas bon puis j'étais convaincu que c'était bon, là, c'était tough. Mais je suis content qu'on me l'ait dit, par exemple. Sur le coup, on le prend pas. Mais l'orgueil fait faire des choses extraordinaires. Puis faut juste bien réagir à ça. Mais oui, c'est sûr qu'on se remet en question tout le temps. Bon, il suffit que deux personnes me disent, hey, c'est ordinaire ton affaire, oublie ça, c'était donc pourri. Là.
Okay.
Il y avait pas.
Fait qu'à l'ère des réseaux sociaux, toi, si t'avais mis des reportages, t'aurais pas été lire les commentaires en dessous.
Mais j'aurais été quand même,
ah,
mais
oui.
Là, peut-être qu'on change avec le temps, mais c'est certain que. Ben oui, je pense que c'est normal de se remettre en question puis de se faire remettre à sa place. Je me rappelle encore une fois Gérard Deltel, un de mes premiers reportages à la télé. J'étais content de mon reportage, puis il vient me voir. Gérard était dur avec moi, mais c'était parfait. C'était un bon ami à moi. Puis il dit, Durant, tu me fais jamais ça. Parce que là, moi, je passe après toi, puis les gens ont décroché pendant ton reportage, tellement ils étaient plates. Bien, c'est un peu comme si les gens avant toi dans ton émission de radio ne faisaient pas un bon travail, ben tu n'aurais pas la locomotive, tu n'aurais pas le... alors, c'est un peu la même chose. Oh, fait que là, ouais. Je m'étais fait parler. Sur le coup, tu dis, voyons, il n'a même pas faim. Là, tu reviens dans ton auto puis tu bougonnes, mais il avait raison.
Oui, mais tu sais, le fait que tu sois resté là et que tu aies travaillé deux fois plus fort le faire mentir, ça définit la personne que tu es. Mais à l'heure des réseaux sociaux, tu sais, pour les gens qui doutent un peu d'eux, d'aller lire les commentaires, tu sais, sur leur, tu sais, ce qu'on dit sur leurs opinions. Exemple, pour nous autres qui sommes dans les médias, on fait régulièrement de l'opinion, tu sais, puis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Arthur, dans le temps, disait, si vous faites de la radio pour plaire au monde, vous ne faites pas le bon métier.
Exact. Ouais, j'imagine.
Il devait donner son opinion, puis on n'a pas toujours l'opinion populaire.
Non.
Parce que si la recette du succès, c'est d'avoir l'opinion populaire, ben les choses progresseraient jamais. Là.
Non, effectivement. Puis là, j'entends des gens là, critiquer Martin Saint-Louis, par exemple, parce que le Canadien ne semble pas avancer au classement. Là, le même nombre de points que l'an passé, où c'est pire. Ben, moi, je l'aime bien, Martin Saint-Louis, puis j'espère qu'il va continuer. Parce que je le trouve vraiment intéressant. Est-ce qu'il est un bon coach? Je ne sais pas. Mais les gens qui le critiquent non plus, là, probablement que, bon, c'est ça. Okay.
Mais en même temps, ils ont le droit de le critiquer, mais on n'a pas toujours. Mettons que je suis dans les estrades, puis je critique Martin Saint-Louis. Je n'ai pas toujours le background d'un coach qui a dû faire évoluer une équipe telle que Martin Saint-Louis l'a actuellement.
Ben oui.
Tu sais, c'est Patrick Roy qui m'a ramené un peu sur le pied sur terre en disant, tu sais, actuellement, les Islanders, c'est les Islanders. Nous, ce qu'on regarde, c'est les statistiques avancées.
Ouais.
Puis on considère que l'équipe a progressé en regardant les statistiques avancées. Moi, j'ai pas accès à ces statistiques-là. Non. Puis lui, ne regarde que ça.
OK.
T'sais, on a-tu le temps de possession de la rondelle, a-tu augmenté ou il a diminué? S'il a diminué, ça veut dire que l'autre équipe est plus souvent en possession de la rondelle.
Effectivement.
Fait qu'on est tout le temps un peu sous stress. Mais eux autres regardent ça, alors que nous autres, on se dit juste, ils ont encore perdu.
Ben oui, c'est sûr. Ça fait 600 lignes, puis bon, c'est ça. Puis ce soir, c'est contre une équipe qui est pire encore.
Mettez-le dehors!
Ouais, c'est ça, maintenant, regarde. On l'a passé, le 8-10 coach, depuis 15 ans à Montréal.
Ouais.
Bon, je pense que c'est le moins pire de la gang. En tout cas, il était intéressant à l'entrevue.
C'est un gars qui aime beaucoup l'histoire du sport. Est-ce qu'à Québec, on est très reconnaissant envers les sportifs qui sont passés dans les 100 dernières années?
Ben, je pense qu'on
un
est...
Un gars comme Joe Malone, mettons.
Ouais, ben là, tu me parles de quelque chose qui m'interpelle. Ben, là.
Ah ouais, OK.
Mais, ben oui, c'est... Hey, mais tu sais, tu parlais de confiance tantôt, puis là, depuis tantôt, là, tu fais ton entrevue, t'as pas de papier devant toi.
Non.
T'as pas de notes.
Non.
Tu défiles ça.
C'est souvent ce qui marque, mais j'ai des petites failles. J'ai des petites failles à certains endroits. Là. Si tu parles à la mère de mes enfants, elle va t'en dire. Ben, t'as connais la mère de mes enfants?
Ben oui, je la connais.
Elle va te dire tous mes défauts. Mais oui, c'est vrai, je fais des entrevues jamais avec.
Ben écoute, c'est une belle qualité que t'as, une confiance en toi. Ouais. Tu dis, gars, je vais être capable de remplir, même si le gars en avant, il parle pas trop. Bon, je vais être capable de m'en tirer.
Ah, je choisis mes invités aussi.
Bon. Ben, écoute, de quoi on parlait, non?
Joe Malone.
Donc, en fait, la reconnaissance des athlètes de la région, je pense que oui. Oui, parce qu'on est fiers de nos athlètes. Je pense qu'on est fiers quand quelqu'un vient de la région. Lorsque un artiste ou un athlète vient de la région, puis on le voit avec Patrice Bergeron qui... Ça, c'est un exemple. Si ce gars-là avait joué pour le Canadien, on cherchait c'est qui va remplacer Guy Lafleur, ça aurait été lui.
Oui, exact.
Puis il n'y en a pas d'autres. Même Patrick, qui est super, ne sera jamais un gars qui aura l'aval de toute la population. Il a son style, puis bon, il y a des gens qui l'aiment, d'autres l'aiment moins. Patrice Bergeron, tout le monde l'aime. Alors, mais ça, on est fiers qu'il vienne de la région. Même s'il n'habite pas ici, on est content.
C'est un très bon point, effectivement. Si Bergeron avait joué pour le Canadien, il serait déjà un dieu.
Ce serait l'ambassadeur pour le Canadien pour la vie. Là. Ben, il va l'être pour les Browns, puis tant mieux pour lui. Mais bref, oui, on est reconnaissant. Maintenant, ça, c'est un de mes mandats avec la Société d'histoire du sport de la Capitale-Nationale, puisque tu en parles, c'est qu'on ait un panthéon des sports, un temple de la renommée, quelque chose qui reconnaît de façon officielle et pour toujours la part de nos athlètes, de nos bâtisseurs, de nos équipes également dans la région. Ça n'existe pas. C'est assez particulier qu'au Canada, toutes les provinces ont un temple de la renommée, sauf le Québec. Et toutes les villes à peu près au Québec, sauf Québec puis Montréal, ont des temples de la renommée. C'est quand même assez particulier. Il y a un temple de la renommée du Québec, mais qui n'est pas physique, qui est juste virtuel, puis une attribution annuelle. Mais on cherche un endroit ou quelque chose qui pourrait justement reconnaître ces grands athlètes qu'on a eus, les Pierre Harvey, les Gaétan Boucher, les Sylvie Bernier, et Patrice Bergeron, évidemment, puis Alex Harvey.
Puis on ne pourrait pas faire ça au centre Vidéotron?
Bien, il y a eu plusieurs approches. Nous, on préconise que ce soit un endroit ouvert au public qui n'a pas besoin justement de laisser passer ou tout ça. Bien, il y a eu plusieurs approches avec la Ville de Québec qui n'est pas contre l'idée, mais on a des bonnes nouvelles qui devraient arriver dans les prochaines années. Mais c'est un objectif
d'avoir une reconnaissance. Québec et Montréal ne semblent pas travailler fort pour la reconnaissance des sportifs qui sont de chez nous.
Ouais.
Mais quand je fais le tour, exemple, des arénas, la fin de semaine, mes gars, des joueurs de hockey, fait que je fais le tour des arénas, ça me marque à chaque fois de voir que dans un aréna, on rend hommage à tous les athlètes de la région. Autant le patinage artistique, patinage de vitesse, hockey, tout le sport sur glace, c'est dans l'aréna avec les trophées, les photos et tout ça. Au centre Castel, il y a des joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey, qui viennent de Sainte-Marie-de-Beauce, puis qui sont en grandeur réelle. Tu sais.
Oh, wow.
C'est Thomas Chabot, de mémoire, qui vient de Sainte-Marie. Puis à chaque fois que j'arrive au centre Castel, je vois toujours Thomas Chabot qui est affiché là. Puis ça dit, le gars vient de chez nous, il y a un sentiment d'appartenance.
Exactement. Puis on serait fiers de ça. Il y a quelques édifices qui ont des noms d'athlètes. Il y a quelques reconnaissances. Il y a la place, j'oublie le nom, là, j'étais en plus associé à ça, là, au centre Vidéotron, à la place Jean-Béliveau.
Ouais.
Il y a eu les 5 œuvres d'art. Ça, c'est bien. Manon Réaume, Sylvain Côté récemment.
Oui.
Mais ça pourrait être dans ce coin-là. Bref, quelque chose comme ça.
J'étais vendredi. Là, j'étais à côté de la statue de Guy Lafleur.
Guy Lafleur.
Mon gars s'est fait prendre avec Guy Lafleur.
C'est correct, avec ses buts, filet qui a rebondi dans les airs. Non, c'est assez particulier, c'était un beau projet, ça.
Ouais. Puis, tu vas rester là-dedans longtemps, j'imagine?
Ben écoute, j'essaie de me sortir. Ben, non, c'est des blagues. Mais quand j'ai quitté en 2014, je me voyais faire d'autres choses que du sport, mais toujours en gardant un pied. Mais j'ai jamais arrêté parce que ça fait 10 ans qu'on me sollicite, que j'ai beaucoup d'animations, d'événements. Je suis associé au sport au niveau du ministère, au niveau des fédérations sportives. Fait que, bon, je pense que mon nom est associé au sport, alors j'anime que des événements de sport. Quelques documentaires ici et là qui ne touchent pas le sport, mais sinon, ça a toujours été ça.
Quel est l'athlète le plus incroyable que tu as rencontré dans ta vie?
Mon Dieu.
Homme, femme, tout sport confondu. Là.
Incroyable en personnalité.
Parler de Gaëtan Boucher tantôt. Je veux dire, c'est un exceptionnel, Gaëtan Boucher.
Absolument, puis il patine encore.
Il patine encore?
Oui, il patine encore. Il a remporté, il y a 2 ans, il y a un documentaire à Radio-Canada qui a été fait là-dessus. D'ailleurs, c'était le championnat du monde des maîtres. Et il s'est entraîné pendant 1 an et demi pour ça. Puis il a gagné par la peau des fesses, là, mais puis c'était le seul ex-athlète de haut niveau. Mais tu vois, le gars, il a encore ça dans le sang.
Ben oui.
Puis il voulait bien faire chez lui, malgré des ennuis de santé. Mais il patine encore, il vient faire son petit tour en longue piste. Je l'ai croisé justement dans le temps des fêtes. Et puis il y a des ennuis de santé, malheureusement physique, là, au niveau pour patiner vite, si on veut, mais il continue à le faire encore. Ouais, c'est un grand, effectivement. Sylvie Bernier également, Jean-Luc Brassard. Quel homme extraordinaire, toujours intéressant. Si tu as la chance de l'inviter, prends-le, puis ça va passer très bien pour tes auditeurs.
Mais quelqu'un qui t'a marqué, là, qui était peut-être un idole d'enfance à toi, est-ce que tu as rencontré Guy Lafleur?
Oui, ben oui, j'ai fait un livre sur lui, et puis c'est le seul des trois que j'ai pu rencontrer pour le livre.
De son vivant, le livre?
Oui. Puis c'est le dernier livre qu'il a pu lire sur sa vie, si on veut, entre guillemets, parce qu'il est mort quelques mois plus tard, mais il était présent lors du lancement du livre ici à Québec, au Centre Vidéotron.
Je te parlais du stress tantôt, là. Quand t'écris un livre, une biographie sur quelqu'un qui est décédé, tu te dis, il lira jamais. Mais là, tu écris un livre, une biographie sur la vie de l'individu qui est en face de toi, puis tu sais très bien qu'il va le lire. Ça doit être stressant. Hein?
Bien, ça l'était pas dans un sens, parce que c'était pas un roman, c'était des faits. Alors, je faisais que raconter ce qui s'était écrit sur lui, ce qui s'était dit sur lui pendant les années qu'il était à Québec. Parce que le livre de Guy Lafleur que j'ai fait, je le voulais différent des autres, alors j'ai parlé que de Québec.
Uh-huh.
Alors, le Canadien, c'est à peu près juste quand il était repêché. Après ça, le reste, je ne l'ai pas raconté. Alors, mais lui-même, il ne se rappelait pas de tout ça. Alors, je faisais passer. Il l'a lu, il l'a vu, il l'a apprécié. Son fils m'en a parlé aussi par la suite. Puis j'ai eu la chance de faire le documentaire sur Guy Lafleur, qui est encore disponible sur YouTube, également sur tout.tv. Et ça, c'est particulier. Je peux prendre quelques instants, Yannick, je pense que tu vas aimer ça. Alors, on fait le documentaire, c'est l'idée de Jean-François, mon Dieu, j'oublie son nom. Moi, tu vois, j'aurais pris des notes, ça aurait été bien. Mon collègue de Radio-Canada. Et puis bon, c'est ça. Donc, on fait un documentaire sur lui, puis je viens de voir le documentaire des Beatles, Get Back. Et puis, dans ce documentaire-là, il n'y a aucune entrevue récente. Il n'y a personne qui dit « Ah oui, je me rappelle en 69 quand les Beatles étaient en studio. » C'est vraiment comme ça s'est vécu, voilà, avec quelques titres à l'occasion. Jean-François Poirier, je cherchais son nom, voilà.
Ah, alors, je l'ai ici, voilà.
C'est ça. Alors, Jean-François qui a eu l'idée, mais au départ, c'était pas ça. Il y avait des entrevues avec Claude Meunier, puis tout ça, qui racontait comment Guy Lafleur était important. Mais là, je vois les archives, je dis « Non, il faut juste faire vivre ça comme c'était. » pas d'entrevue récente. On laisse Guy Lafleur parler en 75 quand il est fâché après Scotty Bowman parce qu'il y avait un extrait. Puis à l'époque, il était clair en part. Il voulait jouer pour Saint-Louis ou Philadelphie, pas canadien. Tu sais, des exemples comme ça. Mais tout ça, on le finit. Puis j'appelle Martin. Puis j'ai dit, écoute, on aimerait ça présenter à Guy Lafleur le documentaire sur lui. Mais il était malade, sans savoir qu'il allait mourir à ce moment-là. Puis oui, parfait. Fait qu'on a un rendez-vous un lundi matin chez lui, moi et Jean-François, puis le documentaire. Puis j'avais vraiment hâte de lui montrer. Puis Martin m'appelle le matin même, puis il dit, écoute, il n'est pas en forme de ce temps-ci, j'aimerais mieux. Puis non, c'est pas vrai, il me dit pas ça. Il dit, je serai pas là, j'aimerais ça être présent. Alors, il me dit pas que son père est malade, mais il est mort quelques jours après. Fait qu'il l'a pas vu, malheureusement. Nous, il était prêt. Alors, il était diffusé à la hâte la journée même de son décès, puis il a été diffusé 4 fois. C'est un record pour un documentaire à RDI, parce qu'il a été vu 4 fois en une semaine, dont aux funérailles par la suite, même à la première chaîne, d'ailleurs. Et puis, ben, j'aurais aimé ça qu'il le voit,
maudit. Bien, je comprends. Puis, quand on regarde ces images-là, ça ramène, c'est de la nostalgie. Hein. Ça,
oui.
Ça nous ramène dans les émotions. Puis, j'avais fait une soirée spéciale avec Jean Perron, puis ça a donné comme ça, on avait... C'était la fête des pères. Puis je recevais, ça, c'était le show tard dans le temps, fait que je recevais un invité pendant 3 heures. Puis j'avais donné l'opportunité à des enfants d'amener leur père en studio pour rencontrer Jean Perron qui racontait ses histoires avec le Canadien puis tous les joueurs qu'il avait rencontrés. Puis j'ai vu dans les yeux de ces hommes-là ce que j'ai pu voir quand j'ai vu une reconstitution du spectacle d'Elvis là, chez les dames de 70 ans qui avaient vraiment l'impression que c'était Elvis qui était sur scène.
Ouais.
Ça nous ramène les émotions. On dirait qu'on est une petite bête là, puis qu'on a besoin de vivre des émotions. Puis le documentaire de Guy Lafleur, c'est un Québécois qui est issu d'une famille pauvre qui réussit à devenir un dieu du hockey.
Ouais.
Quelle histoire quand même. Ouais. Toi, tu l'as rencontré?
Oui, j'ai rencontré plusieurs reprises. Ouais.
Quelle était la différence entre l'homme que tu pensais qu'il était puis l'homme qu'il était réellement?
C'était un gars, non, il était exactement comme il était.
Pareil,
franc, okay. Et puis il fumait, c'est particulier. Contrairement à Jean Béliveau, qui lui était un homme droit, puis là, je pense qu'il était aussi naturellement comme ça dans la vie, là, mais Guy Lafleur, non, il n'avait pas peur de ses opinions. Ouais. Tu lui demandais qu'est-ce que tu penses du coach, il dit, il n'est pas bon. T'sais, alors qu'aujourd'hui, on a les gants blancs et tout ça. Fait que c'était assez particulier.
Ça passerait plus aujourd'hui avec Guy Lafleur.
Non, aujourd'hui, ça me fait tellement rire, les entrevues d'après-match. C'est pour ça que j'aime autant Martin Saint-Louis. C'est le seul qui est intéressant. Tous les autres, ils disent exactement ce que je pourrais dire moi-même sans avoir vécu la game, parce que j'imagine que le joueur va penser comme ça. Il dit exactement ça.
Mais t'as raison, M. Béliveau était très à son affaire, soucieux de son image.
Oui.
Même quand il signait des autographes, il prenait la peine d'écrire Jean Béliveau. Puis quand les gens disaient « Mais pourquoi vous prenez du temps pour chaque signature?
»
Ben c'est parce qu'il voulait que les gens sachent que c'était vraiment Jean Béliveau qui avait écrit sur ce bâton d'hockey-là ou sur ce chandail-là. T'sais. Tandis que les autres, quand tu les rencontres, je parle pas de Guy Lafleur parce que je l'ai jamais rencontré, mais c'est un barbeau, tout simplement.
Ben, Carey Price, il met pas le chiffre 31, t'as aucune idée que c'est lui. Là. C'est comme ça. Puis ça, Béliveau était contre ça. Tous les joueurs de son époque, d'ailleurs, signaient très bien. Et anecdote, encore une fois, Jean Béliveau a eu plusieurs problèmes de santé avant son décès.
Ouais.
Et un moment donné, ça s'est prolongé, puis il recevait du courrier sans arrêt, lui, qui répondait tout le temps, à la main, tout le temps. Il a toujours fait ça toute sa vie. Puis à tous les matins, il se levait, puis il pratiquait sa signature. Puis il répondait pas au courrier tant aussi longtemps qu'il n'était pas capable d'écrire puis de signer comme il faut. Alors, il s'est amassé, écoute, une chambre où il était alité avec plein de boîtes d'enveloppes. Et un jour, il s'est senti capable de le faire. Là, il répondait à tout le monde en commençant en disant « Je suis désolé du retard de cette lettre. J'ai bien lu votre lettre. » Puis là, il signait à la fin. Il a fait ça pour toutes les autres lettres.
Ça existe ça encore, des gens comme ça?
Je sais pas.
c'est des gens d'une autre époque, là, mais je peux pas croire que aujourd'hui, en 2024, les athlètes... Je ne connais pas Sidney Crosby, mais je peux pas croire qu'un enfant qui passe à côté de Sidney Crosby, qui veut donner une poignée de main à Sidney Crosby, je pourrais pas croire qu'un Sidney Crosby regarde même pas l'enfant puis passe tout droit.
Non, je pense pas qu'il ferait ça, non.
Mais je sais que c'est déjà arrivé avec certains joueurs de hockey qui sont passés à Montréal.
Certainement.
Comment tu peux faire ça? Je veux dire, tu as la chance de jouer au hockey, tu as la chance d'être bien payé pour le faire, mais les fans, tu tends à les ignorer parce que font trop partie de ta vie. Tu sais, c'est achalant.
C'est achalant. Puis il y a bien des choses qui m'agacent un peu. Là, Suzuki ne parle pas encore français, je comprends pas. Kirby Dack est blessé depuis le début de l'année, il n'a pas joué. Ben, t'as pas d'excuse. Là, il te reste. T'as 8 mois à rien faire, là. Tu vas apprendre à parler français.
C'est important pour toi?
Ben oui! Tu fais. Écoute, les joueurs du Canadien dans les années 70, là, on a l'air de vieux, dans mon cas.
On est vieux, des vieux dinosaures.
Mais Larry Robinson, Steve Schott, ça parlait tout français, là. Ils avaient appris. Ken Dryden, ils ont appris le français. Ils étaient là, tu vas me dire, pas plus longtemps, peut-être, mais. Les joueurs devraient faire un gros effort, puis Chantal Maccabée doit leur rappeler sans arrêt, mais il me semble que ce serait la moindre des choses. Bref, le respect de l'amateur est moins là, c'est évident. Ouais. Je pense que ce sont des hommes d'affaires maintenant, des gens qui ont des contrats, c'est des petites PME maintenant. Puis les signatures, de plus en plus, c'est maintenant, il faut payer pour. Je pense qu'il y a encore des joueurs qui s'arrêtent, comme Patrice Bergeron. Je suis convaincu qu'un jeune arrive avec une carte d'hockey, il va la signer, puis c'est pas un problème. Mais sinon, ben c'est
il y a des joueurs que tu sais qui vont le faire.
Ouais.
Il y a d'autres joueurs que tu te doutes qu'ils le feront jamais. Est-ce que le hockey s'est embourgeoisé en raison des coûts que ça prend pour pouvoir mener ton gars à une carrière un jour dans la Ligue nationale de hockey?
Ouais,
c'est des gens qui sont tout le temps moyens pour la plupart. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne savent pas vivre, mais on dirait que le Canadien français qui a grandi dans la misère, qui a appris à jouer au hockey sur les petites patinoires, qui n'a jamais eu de cours, qui est tough, qui n'abandonne pas, puis qui arrive un jour dans la Ligue nationale de hockey, ça n'existera plus jamais, ça.
Je ne sais pas. Hein? C'est une bonne question, parce que je n'ai jamais vraiment arrêté à ça. Il y a des sports qui, c'est sûr que si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras jamais réussir. Je prends le ski alpin, par exemple, parce que ça coûte extrêmement cher pour se rendre jusque-là. Alors, tu vas faire d'autres sports avant. C'est très rare que quelqu'un en ski alpin n'a pas les moyens, c'est certain. En hockey, est-ce que c'est le cas? Mais peut-être que tu le sais mieux que moi. Là,
ben, moi, ça coûte énormément cher. Moi, à l'âge que mes gars ont, ça me coûte plus cher d'essence que pour la saison de hockey. Puis quand on remplace... je vis un peu comme à l'ancienne. Là. Quand on remplace... quand on a une pièce de rechange à faire, on la change sur le plus vieux. Ça s'en va sur le plus jeune après.
Ça, c'est pas pire.
Puis le plus jeune, il dit rien jusqu'à maintenant.
Non, c'est ça.
C'est ça.
OK.
C'est ça. Ça ne coûte pas si cher, mais je suis constamment sollicité par courriel pour les inscrire à un cours de power skating.
Oui.
École de hockey avec des joueurs...
professionnels, peut-être.
Semi-pro de la Beauce ou encore à Québec, où c'est des joueurs qui ont évolué dans la Ligue nationale de hockey qui donnent des cliniques hockey. Ça coûte cher. C'est des centaines de dollars parfois. Puis même, ça va jusqu'à des milliers de dollars. Moi, j'ai pas... Je dépenserai pas 10 000 piastres par année pour mes gars, mais ce qu'on me dit, c'est que dans notre famille, les cousins de la mère de mes gars, c'est ça, ont joué tous deux chez les Remparts de Québec.
Okay.
Ben, tu sais, pour les mener là, dans les dernières années, avant d'arriver chez les Remparts, c'était un genre de 5-6 000 par enfant. Là,
c'est fou. Hein?
C'est cash. Là.
C'est ça, exactement. Je sais que le rapport du comité hockey, j'étais dans le groupe, là, ça a été commandé par M. Legault il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, ça avait fait un gros bouquin.
Ouais.
C'est Marc Denis qui présidait ça. C'est moi qui étais à la rédaction donc de toutes les réunions. Puis c'était un enjeu, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le hockey à des valeurs plus normales? On veut pas empêcher les gens de gagner leur vie à être des entraîneurs privés, mais c'est un des enjeux. Là. Comment on peut faire pour ramener ça de façon plus économique, si on veut, pour qu'il y ait plus de jeunes qui jouent au hockey, parce que ça devient un peu coûteux, puis si tu as du talent, bien, ça devient encore plus coûteux.
Exact.
Puis si j'étais le parent, comme toi, d'un enfant qui a peut-être un talent certain, c'est une question. Hein, ce que
nos enfants, c'est tous des Wayne Gretzky.
Ouais, je sais pas, mais si tu veux qu'ils deviennent, tu n'as peut-être pas le choix d'aller justement à ce petit cours privé de... Ah mon Dieu, ça va être des enjeux importants. Hein. C'est quelque chose d'assez particulier. Hein. C'est pas simple. Est-ce que justement tu dis, est-ce que c'est juste les riches? J'ose croire que non. Mais certainement que ceux qui ont les moyens peut-être de faire des camps.
Ben tu vois, dans le cas des deux jeunes que je te parle, leurs parents ont dû faire des sacrifices incroyables. Parfois, les rénovations de la maison, au lieu de durer un an, c'était sur 10 ans.
Mm-hmm. Oui. Mais ça arrive dans d'autres sports aussi. Cela dit, je suis convaincu qu'il y a bien des athlètes. Par exemple, on a un centre de glace maintenant à Québec, mais il y a des parents qui déménagent parce que leur enfant est maintenant un bon patineur. Puis ils décident de le faire. C'est arrivé dans d'autres sports, en tennis par exemple aussi. Ouais, c'est plate à dire, mais ça prend des fois un peu d'argent. Oui.
Y a-tu des athlètes que tu as rencontrés? Puis j'ai vu le documentaire sur Alexandre Daigle. Y a-tu des athlètes, peu importe la discipline, que tu as rencontrés, que tu savais qu'il y avait un avenir extrêmement prometteur, puis pour une raison ou une autre, ils ont fait pouet-pouet? C'est Alexandre Daigle, je veux dire, clairement, on se rend compte que ses parents ont eu un apport assez particulier dans sa carrière, puis lui, il voulait pas tant que ça jouer au hockey, mais il avait un talent inné pour ça. Puis rendu dans la Ligue nationale, bon, les premières années, ça s'est quand même bien allé, mais après, ça a quand même bien été, mais après ça, il s'est perdu. Là.
Il s'est perdu, il a perdu goût au hockey. J'ai plein d'exemples de jeunes, mais qu'on connaît pas aujourd'hui, puis je suis pas sûr que je voudrais les nommer.
Non, c'est sûr.
Mais des talents gâchés. Bon, j'oserais pas dire ça, mais oui, ça arrive que des gens ont beaucoup de talent. Tu te dis, il me semble s'ils mettaient un effort de plus, ils seraient encore plus forts. Ouais. Puis ils se limitent à peu.
Parce que je pense pas avoir ces enfants-là. Là. Mes enfants sont exceptionnels, mais pas au hockey. Ils ont mon talent au hockey. Fait qu'ils joueront jamais dans la Ligue nationale de hockey.
Ouais.
Ben, je pense, en tout cas. Wow. Ils peuvent me faire mentir. Mais tu sais, quand tu es un parent. Puis tu vois que tes enfants sont exceptionnels dans leur discipline, que ce soit, je sais pas, tu parlais de pas de tennis tantôt, mais de...
Patinage de vitesse.
Non, mais toi, ton sport que tu faisais...
Ah, baseball, hockey, ouais.
Non, mais ton sport à toi, quand ils t'ont offert de jouer au foot...
Ah, au football, badminton. Ouais.
Badminton, bon. Tu sais, quand t'es un parent, tu te rends compte que ton jeune, c'est un exceptionnel au badminton.
Ouais.
Puis que lui, il veut pas tant que ça, mais tu sais qu'il pourrait faire une carrière puis être heureux jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il va faire plein d'argent et tout ça. Ouais. Ça doit être fâchant pour un parent de voir ses enfants comme « Ah non, mais ça me tente pas, c'est pas mon chemin. »
Dieu, ouais. C'est sûr. Mais écoute, moi, je pense qu'il faut que le jeune, ce soit d'abord... Il y a deux motivations. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque. Intrinsèque, là, elle vient de toi. Puis c'est toi qui aimes ça. Puis c'est personne d'autre qui aime ça que toi. Puis c'est pas parce que tes parents ou ton coach t'ont dit que t'étais bon, c'est parce que tu l'as. Ça te tente. Et la motivation extrinsèque, c'est tout le reste. Oh, mon coach, j'aimerais ça que je fasse ça, je vais être bon si je fais ça. Si je finis d'un premier, je vais aller au championnat provincial. Si je suis un premier compteur, je vais... T'sais, ça, c'est extrinsèque.
Ouais.
Ça peut marcher. Mais moi, je pense que tous les grands athlètes, ils ont d'abord la motivation intrinsèque. Tu sais, pour faire les sacrifices qu'ils font, là, c'est pas l'argent au bout de la ligne, c'est pas le contrat, c'est pas la médaille d'or, c'est parce qu'ils trippent solide à faire ce sport-là.
Même en 2024, c'est
absolument.
Pas l'argent qui compte.
Bien, ça l'est quelque part. Ben oui, c'est sûr, mais honnêtement, ben en tout cas, moi je pense que ça faut qu'il y ait une motivation. Pour aller t'entraîner dans boîte ou à moins 20, puis aller à la piscine à 5 heures du matin pour nager ton crawl alors que la piscine est à 65, c'est parce que t'aimes ça quelque part.
Okay.
Si tu fais ça parce que tes parents ont mis de l'argent sur toi ou parce que ton coach t'a dit « si tu continues comme ça, tu vas aller aux Olympiques », ça ne marchera pas longtemps, tu ne seras pas heureux.
Hey, avant la pause, je me suis emmagasiné des questions tantôt en te jasant. Ça, j'ai parlé de Matt Rempe, là, qui est comme la nouvelle sensation de la Ligue nationale de hockey. Là. C'est comme un poids lourd pour ce qui est des bagarres. Puis t'as dit, tu sais, Yann, moi, les bagarres, je suis pas tant pour ça au hockey. Est-ce que c'est une opinion qui a évolué avec le temps ou t'as toujours été contre les bagarres au hockey?
Ben, je pense qu'au début, j'avais pas d'opinion. C'était ça, le hockey.
Okay.
C'était ça, le hockey.
Ça faisait partie du hockey, selon toi.
Le premier match de hockey de l'histoire, en 1895, le 3 mars à Montréal, il y a une bagarre à la fin du match.
Hein?
Comme quoi, ça a toujours été...
C'est vrai?
Oui, c'est ça. Mais je suis contre la bagarre depuis plusieurs années, depuis qu'on connaît un peu les séquelles, entre autres, des... Puis je me rappelle encore, il y a deux ans, j'ai vu... moi, ça m'avait marqué, là, c'était un match des Lions de Trois-Rivières, puis c'était un match qui était 9-3, puis ça se battait à toutes les deux minutes à la fin de la partie. Puis il y avait plein de jeunes, là, des jeunes de... C'est un match en après-midi, des jeunes de 9, 10, 11 ans qui voyaient ça, là. Moi, je trouvais ça affreux. Je pense pas que c'est nécessaire. C'est le seul sport au monde où on permet les bagarres, c'est-à-dire qu'on les permet, qu'on donne juste 5 minutes si tu te bats. Là. Tous les autres sports, même le rugby, qui est un sport très physique, le football, tu te bats, t'es dehors.
Ouais, ça se cogne quand même, mais effectivement, les
sentences sont plus sévères. Il n'y a pas de bagarre. Ça fait pas partie de « écoute, faut sauver son coéquipier, faut sauver l'image, faut réveiller notre équipe. Ben, » Ça me fait rire. Hey, là, il était temps qu'un gars se batte, là, ça va réveiller les troupes. Ben, ouais, mais ça n'a peut-être assommé un pour la vie. Là. Ça n'a pas de rapport. Puis on le voit dans l'hockey junior, il n'y a plus de bagarre maintenant.
Ouais.
Puis ce que je cherche, là, qui est encore populaire et suivi. Là. Je pense que c'est une... On doit arrêter ça, c'est tout simplement ça.
Ben, tu sais, dans le temps, on ne connaissait pas les conséquences.
Non.
Tu sais, à un moment donné, il y a un John Cordick qui est passé à Québec, qui était rendu, avec les coups sur la tête, était rendu complètement parti, puis la drogue, l'alcool,
la drogue aussi,
pour essayer de vivre avec les blessures.
Mm-hmm.
Puis malheureusement, il est décédé.
Oui. Puis il y en a plein d'exemples comme ça, on le
motel
sait maintenant.
Maxime,
sur Amel.
Au motel Maxime sur Amel, décédé d'une crise cardiaque.
Oui, je pense qu'il avait été arrêté par les policiers. Puis dans
Mais il souffrait tellement. Il y avait Chris Simon aussi qui souffrait énormément. Parce que les bagarres, à un moment donné, ça laisse des traces, là.
Oui, puis c'est pas normal que tu te battes, là. S'il y a une mise en échec, ben va le pincer après, toi aussi. Tu as le droit, c'est un sport physique, mais je comprends pas qu'on laisse faire ça. Tu te bats dans la rue avec quelqu'un, les policiers t'arrêtent, tu fais de la prison. Tu peux être poursuivi. Pourquoi tu as le droit de te battre au hockey? Ça marche pas, là. Si on appliquait le code judiciaire au Québec, là, d'ailleurs, c'était une de mes propositions qui n'a pas été retenue, mais dans le rapport du comité hockey, on devrait appliquer la loi partout au Québec, peu importe l'endroit. Alors donc, dans les arénas du Québec, tu n'aurais pas le droit de te battre. Ça s'arrêterait là. Tu n'as pas le droit de te battre dans le gymnase, tu n'as pas le droit de te battre dans le studio ici à côté. C'est interdit. Parce que
les arénas, ça devrait être la même chose.
Même chose, mais là, c'est comme ça, là, hockey.
Ouais.
Je regarde les ligues de Goon, les ligues de dur, les semi-professionnels et tout ça. Puis...
Mais là, le marketing est bâti là-dessus.
Ben oui, mais c'est ça. Ouais. C'est comme, ben, arrête ça.
Ben, les gens se disent, écoute, il accepte d'aller se battre pour quelques dollars, puis c'est son propre choix et tout ça. Rendu là, c'est des hommes qui sont capables de s'organiser avec leurs troubles, ouais. Mais quand c'est des étudiants athlètes, quand je pense à des joueurs des Remparts et tout ça, c'était correct qu'on enlève ça.
Oui, oui, des 16 ans contre des 20 ans, ça n'avait aucun sens. Là. Alors, c'est terminé tout ça. Là.
Donc, Matt Rempe, pour toi, c'est pas la nouvelle
histoire. Je trouve impressionnant. J'espère qu'il donne des bonnes mises en échec, qu'il s'est patiné, puis puisse compter des buts.
Toi, t'es à 6 et 5.
Ouais.
Lui, il est à 6 et 8. 240 livres, 21 ans. Ça veut dire que d'ici 5 ans, il devrait peser 250-260.
Oui, ouais, ça va être à suivre. Ouais.
c'est comment mesurer CC5, Marc?
Ah, ben, je sais pas, ben, j'ai pas mesuré autre chose vraiment depuis l'âge de 18 ans. J'ai grandi d'un coup.
On va faire une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on passe la soirée avec Marc Durand, qui fait encore énormément plein de choses aujourd'hui. T'as un site web pour les gens qui voudraient en savoir plus?
Oui, marcdurand.ca. Mes livres sont là, mes différentes fonctions d'animateur, monteur, producteur, réalisateur.
Documentaire, livre.
Sur les capitales, un documentaire qui sera en ondes sur RDS en mai, sur la dernière conquête. Une saison importante pour les capitales, 25 ans d'histoire. C'est une autre passion que j'ai, là, l'histoire du baseball et les capitales. Alors,
on fait une courte pause, on revient tout de suite.
Marceau, le soir. 102.1 Boulevard.
Marc Durand est avec nous ce soir, animateur, conférencier, journaliste. C'est un homme qui a tous les talents.
Je sais pas.
Ouais, tu sais pas?
Mais j'aime ce que je fais.
Y a-t-il quelque chose que Marc Durand n'est pas capable de faire?
Oui, il y en a plein. Pas très bon. J'ai jamais fait de pirouette de ma vie. C'est pas sûr que ça intéresse les gens. Là.
Là, tu as des documentaires qui vont voir le jour dans les prochains mois.
Bien, j'en ai un sur les capitales de Québec. J'ai eu la chance de les suivre lors de la finale l'an passé.
Ouais.
Donc, on n'a pas le titre encore, mais ça risque d'être quelque chose comme 6 jours en septembre, là, parce que c'était vraiment ça. Du début à la fin du tournage, c'était 6 jours, 5 matchs, la victoire des capitales.
T'as-tu toujours trippé sur le baseball?
Oui, j'ai toujours.
Ça a commencé avec les expos?
Bon, oui, c'est ça. Puis j'ai été joueur de baseball et puis je suis devenu entraîneur. J'ai été quand même longtemps associé au baseball. J'ai été entraîneur un bon niveau également. On avait des camps d'entraînement en Floride et tout ça. Puis quand les capitales sont arrivées, j'ai trouvé ça génial. En 99, là, ouais. Je dis, OK, ça, c'est parfait pour nous à la ville de Québec.
C'est le maire Lallier. Je me serais pas vraiment entendu avec ce maire-là non plus. Là. Mais ce qu'il a fait avec le stade de baseball, c'est exceptionnel.
Oui. Ouais.
T'sais, le stade municipal, il est d'une beauté incroyable.
Ouais. Je ne sais pas si l'Allier était si important que ça pour la rénovation du stade.
Je pense qu'ils ont voté des budgets et tout ça
probablement,
pour donner un peu de subvention.
Mais c'est surtout des gens locaux, c'est des gens de la base, là. Entre autres André Arthur, qui avait fait une promotion. Je me rappelle très bien, j'étais à TQS à ce moment-là, puis Arthur, lui, c'était un fan de baseball, André Arthur, puis il était arbitre au baseball jusqu'à la fin de ses jours, puis... Il avait dit, le stade, il faut le remettre en ordre. Parce qu'il aimait beaucoup André Lachance, entre autres, qui a coaché les Diamants. Puis, bon, il dit, il faut le remettre en ordre. Alors, on fait une corvée en fin de semaine. Raymond Malenfant était là, un homme d'affaires.
Monsieur Malenfant avec les motels.
Oui, c'est ça. Fait qu'il avait mis de la peinture, ses bancs, tout ça. Mais c'était vraiment les débuts. Mais
oui.
Ça a comme été une façon d'animer les gens de Québec pour leur vieux stade. Il est arrivé les Diamants de Québec, ça a bien fonctionné.
Ouais.
Les Capitales ensuite.
Parce que nous autres, on allait jouer là, puis le stade était désuet. Puis du jour au lendemain, la communauté d'affaires, peut-être avec les médias aussi, tu vois, c'était on avait encore une pertinence à ce moment-là avec la communauté d'affaires.
Ben oui.
Puis moi, j'avais l'impression que le maire Lallier, il était pour quelque chose. Du moins, il a pris quelques décisions, mais actuellement, ce stade-là, oui, il y a encore des trucs à faire, mais il est d'une beauté. Là, le soir, là, quand tout est éclairé, là, moi, je vais régulièrement au Capitale. J'adore ça, même si je ne trippe pas tant que ça sur le baseball. Là. L'ambiance est juste hallucinante.
Ben écoute, je dis souvent aux gens, c'est à peu près le seul sport où tu peux t'asseoir avec des amis, prendre une bière, du popcorn, des hot dogs, tout ça, puis commencer à regarder le pointage à la 7e manche.
Ouais.
C'est tout. Jase, parle de ta journée, ta soirée, ta blonde, puis tout ça, puis t'as du fun, puis on est OK, bon. Oh, c'est 2-1. OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On regarde-tu le lanceur partant? Là, tu suis plus le match. Alors, c'est pour les passionnés, mais c'est d'abord pour les gens qui veulent une belle ambiance.
Ben, puis très jeune, tu sais, on a... En tout cas, moi, de mon côté, je suis un gars de la basse ville de Québec, puis on écoutait les expos. En fait, je dis « on », mais j'étais un peu plus... à jouer ailleurs dans le logement, mais mon oncle, lui, était sur sa chaise berçante, puis écoutait à la télé, à la radio, sur le AM, la description du match des Expos de Montréal avec contre une autre équipe. Puis il s'endormait, puis à un moment donné, coup de circuit, là, il se réveillait, il avait son petit crachoir, son petit mouchoir qui était dans sa
poche.
Puis M. Doucet, descripteur exceptionnel.
Absolument, puis il laissait vivre le match, il ne parlait pas trop.
Ouais.
Moi, j'aimais ça comment il décrivait le match avec Claude Raymond, c'était fantastique. Roger Bullitt par la suite, mais Claude et Jacques ensemble, c'était parfait. Les mots, tout ce qu'on avait à savoir, c'était dit à la radio. Deux hommes sur les sentiers, c'est 3-2 pour les Cards, fin de la huitième manche, tel lanceur, tel ouais. frappeur, puis une balle dans la mythe.
Est-ce que tu sais ce que M. Doucet m'a déjà dit? Parce que je lui avais demandé c'était quoi le plus beau commentaire qu'il avait eu, puis le plus mauvais commentaire qu'il avait eu sur sa description de match. Puis il m'a dit, c'est la même chose. Ah. Fait que là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé à décrire le match des Expos, exemple, on me disait que j'avais une belle voix, puis les gens s'endormaient sur ma voix. Puis j'étais fâché de ça.
Ah, OK.
Puis en vieillissant, je me rends compte que c'est une belle qualité d'avoir une belle voix. Puis c'est la raison pour laquelle les gens m'écoutaient. Oui, ils étaient intéressés par les Expos, mais si j'avais eu une voix qui n'était pas agréable, ils ne m'auraient jamais écouté. Mais c'est vrai que les gens... c'est 9 manches, là.
C'est ça.
Puis comme tu le dis, c'était pas des gens qui criaient comme Roger Brulotte, là.
Non, non.
C'était des gens qui décrivaient le match de baseball.
C'est ça.
Puis les gens s'endormaient. Mais j'avais trouvé ça drôle.
C'est 3 heures, mais un match à peu près 3 heures. Mais en action, là, ils ont déjà fait le calcul, c'est environ 8 minutes d'action dans un match de baseball. Alors, il y a beaucoup de blabla, mais laisse parler les silences, puis laisse entendre le gars qui dit « Popcorn, Cracker Jack », tu l'entends en arrière.
C'est une ambiance, Donc, tu as fait un documentaire avec eux, tu les as suivis?
Oui, c'est ça. Écoute, ça a été une décision de dernière minute. Je suis souvent comme ça dans mes projets, puis j'étais avec Michel Laplante, puis c'est la demi-finale, puis il s'apprête à battre New Jersey. Ça a été serré comme demi-finale, puis je dis « Hey, moi, ces gangs, là, je les suis avec une caméra. » Ah, c'est une bonne idée. Fait que, c'est comme ça. Puis là, ils ont gagné. Donc, dès le lendemain, ou à peu près, là, j'étais au stade pour les suivre. Alors, j'étais avec eux. J'ai fait le voyage également là-bas à Evansville. Et puis, il y a un beau stade là-bas. Magnifique stade là, que vous allez découvrir dans le documentaire qui a servi, entre autres, au film Une Ligue en jupon. Parce qu'il est encore plus vieux que le stade des Capitales. C'est le troisième plus vieux encore fonctionnel aux États-Unis. Alors, c'est magnifique. Tu sais, il est beau notre stade, mais quand tu fais le tour, tu te rends compte qu'il y a besoin d'amour beaucoup aussi. Puis les Capitales voudraient qu'il soit renippé un petit peu. Là. Fait que je pense qu'on aime l'emplacement, mais tu sais, il n'y a pas de loge corporative. Il y a moyen d'aller chercher un peu plus parce que la ferveur est là, là. Ça fait 25 ans que les Capitales sont là. C'est 3000 spectateurs en moyenne par match. Il y aurait moyen de faire encore mieux. Je pense qu'il y a une décision qui doit se prendre.
Puis, ils ont un certain succès, les Capitales. Donc, profitons de ce succès-là. Puis revampons le stade municipal comme il se doit.
Oui.
Quand tu décides de faire des documentaires comme ça, est-ce qu'ils sont déjà vendus d'avance?
Non, mais c'est souvent des... Ça dépend. Comme Radio-Canada m'engage à l'occasion, alors ça, c'est des commandes. Dans ce cas-ci, c'est moi qui l'ai proposé. Si je veux faire un documentaire, puis je veux que tu sois diffusé à RDS ou un autre... Mais là, c'est sûr, il faut des ententes qui doivent être prises également.
Mais c'est de l'investissement de départ, là?
Oui, puis il y a des fonds qui existent pour ça, la Ville de Québec, par exemple, au niveau provincial, fédéral également. Fait qu'il y a différentes façons de faire les choses. Là. Il y a un collègue de travail de radio que je nommerai pas, mais que tu connais, qui m'a proposé quelque chose. Alors, ça fait partie des projets. On part beaucoup de projets dans le monde du documentaire. Quelques-uns réussissent à franchir la barre. J'en avais un, par exemple, avec Myriam Bédard. Quelle est-elle devenue? Puis ça lèvera pas, malheureusement, mais il y a eu beaucoup de travail dans le beurre pour ce documentaire-là.
Puis les raisons pour lesquelles ça lève pas les documentaires sur certains sujets, c'est-tu des raisons politiques?
Dans ce cas-ci, non, c'est parce qu'on n'avait pas l'aval, si on veut, de la principale intéressée. On voyait ça compliqué un petit peu, on n'est pas allé plus loin. Mais ça peut être aussi la tendance du moment, qu'est-ce qui plaît? Je pense ça dépend des clients aussi. Si c'est Télé-Québec, il faut que ce soit d'une certaine façon. Mais dans le cas des Capitales, c'est une entente que j'ai avec eux. Alors ça s'est bien passé. Il y en aura un autre sur les Capitales l'an prochain qui sera diffusé à RDS, une autre paire de manches, une commande de RDS, ça va être intéressant aussi. Mais non, c'est ça. C'est d'abord ce qui nous passionne. Dans le fond, le documentaire, c'est qu'est-ce qu'on a le goût de raconter qui ne s'est pas dit ou qui ne se dira pas en 2 minutes dans un reportage télé. C'est un peu ça, c'est comme un livre.
Marc Durand, qui a réalisé déjà beaucoup de choses, est-ce qu'il y a un grand rêve un jour?
Le Temple de la renommée de Québec, ce serait quelque chose que j'aimerais bien.
Pas y accéder, mais le faire.
Non! J'espère. Mais je pense pas que j'ai ma place là. Il y a
peut-être
bien des
comme
gens
journaliste, là.
Peut-être.
Je vais être là pour ta nomination.
T'es bien gentil.
Je vais militer pour toi.
Je passerai pas. Mais j'ai pas pensé à des plans de carrière à long terme, mais c'est sûr que là, les Jeux du Canada s'en viennent en 2027. Ouais. Je suis beaucoup impliqué avec eux. Ça, c'est un projet important pour la Ville de Québec. Tu sais qu'on les a inventés, les Jeux du Canada. C'est nous, en 1967, qui les avons lancés. Puis c'est un journaliste de Québec qui a été le premier à en faire la promotion 7 ans plus tôt. Ça n'existait pas du tout au Canada, puis on devrait faire ça. Puis il s'est même incorporé en 65 avec d'autres amis. Et puis, en 63 plutôt, ils voulaient les faire en 65. Finalement, ça a été lors de la Confédération, les 100 ans du Canada en 67. Puis c'est Québec qui les a eu en premier. Fait que 60 ans plus tard, ça revient à Québec. Il y aura un nouveau centre de curling bientôt. Alors, c'est grâce aux Jeux du Canada. Ça, c'est intéressant. Mais placer Québec comme ville d'événement, ce serait un grand rêve. Ça, c'est ça. Je pense que j'ai toujours pensé que les retours des Nordiques, ça ne marchera jamais. On oublie ça.
Tu y crois encore?
Non, pas tout.
Non, mais tu y crois que ça ne marchera jamais.
Ah, OK, j'y crois.
T'as dit, j'ai toujours pensé, donc tu y crois encore?
Ouais, c'est ça, effectivement. Je pense pas que ça va revenir, puis je pense pas que... Écoute, tant mieux si un homme du privé dit, moi, je veux une équipe à Québec, puis c'est réglé, mais on va oublier ça, tout simplement. Ouais. Mais une ville d'événements, ça, on peut le faire.
On parle de quoi? 1,3, 1,4 milliard de dollars canadiens.
Ouais, puis il faut le remplir, ce centre Vidéotron-là, ouais. Après, puis... Moi, je pense qu'on oublie ça, tout simplement. Puis on devrait simplement fermer le... Puis offrir d'autres choses. Moi, j'aimerais ça qu'on ait des projets qui sont des projets annuels, par exemple. Une Coupe du Monde. On l'a dans certains événements, le Grand Prix cycliste. On a eu 3 Coupes du Monde cette année en sport d'hiver, des sports olympiques. On aura le snowboard bientôt au Mont-Saint-Anne, fin mars, avec Éliott Grondin, entre autres. On a eu Laurent Dubreuil et le patinage de vitesse.
Éliott Grondin qui vient de la Beauce aussi.
Il vient de la Beauce aussi. Puis écoute, il va remporter...
Il est au Centre Castel en grandeur réelle.
Double médaillé. Puis cette année, il va remporter le Globe de cristal. C'est le meilleur planchiste en snowboard cross que le Canada a jamais connu. Alors ça, c'est fantastique. Mais bref, c'est ça. Alors, des événements comme ça annuels qui reviennent, on est fervent de sport, on aime ça. On devrait avoir quelque chose comme ça. Des X Games à Québec, ce serait génial. C'est quelque chose de gros.
On a fait le Red Bull Crash Ice.
Ça c'était génial. Pourquoi
ça bien
plus?
Déroulé. Là.
Je sais pas. Ouais.
Ben, les gens sont choqués. Ils achètent un condo en ville, mais ils veulent pas que ça fasse de bruit.
En tout cas, c'est bon. Mais t'as raison. Mais tu vois, par exemple, pourquoi on n'a pas d'équipe de hockey féminin à Québec? Pourquoi, là, quand ça s'est lancé, cette ligue-là, il n'y a personne à Québec qui a dit « Hey, on veut une des 6 équipes. » Il y a Ottawa en une, mais je pense que Québec aurait pu en avoir une aussi. Là, tout d'un coup, on se réveille et on aimerait ça d'en avoir une s'il y a une expansion.
Ouais.
Parfait, mais ça aurait été le temps, là, au départ. Mais on dirait que si Jacques Tanguay ne lève pas la main, personne ne le fait. On est comme un peu particulier là-dessus à Québec. Là.
On va peut-être avoir du hockey universitaire, là, ce que plusieurs personnes attendent depuis des années.
Ce serait bien, c'est ça. Sans Vidéotron, pourquoi on n'aurait pas un tournoi? C'est drôle parce que je flash là-dessus depuis quelques temps. Je l'ai parlé à RDS il n'y a pas longtemps, mais en Suisse, ils ont la Coupe Spengler, qui est un tournoi annuel depuis, je pense, presque 100 ans maintenant, où ils ont 2 équipes suisses, une équipe du Canada, une équipe russe, plus maintenant, mais il y en avait avant. Puis ils se font un tournoi comme ça pendant 10 jours. Bien, on pourrait se faire la même chose. On pourrait se faire un tournoi comme ça avec une Américaine, une équipe de la KHL, une équipe de la Suède, puis une équipe Québec. Les meilleurs joueurs du Québec ne sont pas dans la Ligue nationale, sont prêtés. On le fait en soccer de plus en plus.
On pourrait le faire.
Ben oui, on pourrait le faire.
T'as plein de bonnes idées.
Ben, je pense que oui, mais bon, c'est ça.
Espérons que des financiers entendent tes idées.
Ben moi, le 7 millions des Kings, là, j'aurais mis ça là-dessus.
Tu l'aurais investi là-dessus. Ben,
exactement.
T'es un meilleur investisseur que je peux te le confirmer.
Je sais pas, mais en tout cas, ça aurait été plus populaire, je pense.
Marc Durand, ça a été un plaisir. Non, t'es pas à la retraite, contrairement à ce que la légende sur l'heure du midi a mentionné. Là. Tu travailles énormément, tu fais des documentaires, tu fais des podcasts aussi.
Ouais.
Merci d'ailleurs pour le podcast que tu viens de faire avec moi. C'était une belle rencontre. T'es un maudit bon gars. On m'avait décrit Marc Durand exactement comme il est présentement, c'est-à-dire très relax puis toujours très intéressant. On continue à te suivre. On surveille tes documentaires.
Parfait.
On achète tes livres.
Oui.
On va. Tes livres sont encore disponibles un peu partout dans les librairies.
Oui, il y en a dans les librairies, mais sinon, marcdurand.ca, puis ils sont là, c'est clic, boutique, puis c'est livré. Alors, c'est pas un problème.
Merci beaucoup d'être passé.
Un plaisir.
On vous souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de Boulevard, puis on se retrouve demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye bye.
Marceau le soir.